Okay, ladies and gentlemen.
Olivier Crépin, le blanc micro. Bien, mesdames et messieurs, je pense qu'on peut commencer la séance sur la transition des fonctions, de rôle de supervision des fonctions IANA et le processus de responsabilité de l'ICANN. Puis-je demander aux délégués de bien vouloir prendre place dans la salle, s'il vous plaît? Bien, nous commençons cette séance donc sur le groupe ad hoc sur la IANA et la responsabilité de l'ICANN. Nous avons eu des appels téléphoniques hebdomadaires pour voir l'avancée des travaux du groupe de travail sur la transition de rôle de supervision des fonctions IANA, le CWG, et sur le CCWG, la responsabilité de l'ICANN. Comme je vous l'ai dit ce matin, on va parler du CWG et CCWG plutôt que de dire tout le sigle. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est de faire un bilan un petit peu de la situation par rapport à la transition IANA et ensuite faire un bilan des dernières avancées au sein du CCWG sur la responsabilité de l'ICANN. Donc, ce matin, pour ce d'entre vous qui étaient là ce matin, à la réunion du groupe de travail, vous vous souviendrez que je vous ai montré un certain nombre de diapos concernant le processus utilisé par le groupe de travail sur la coordination IANA. Et si quelqu'un vient de nous rejoindre à des questions, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions, on va y répondre sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas par rapport au temps, on a 90 minutes devant nous, j'espère qu'on prendra moins de temps que 90 minutes. Voilà un petit peu pour l'introduction à cela. Est-ce que Alan, vous souhaitez ajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Alan au micro? Non, non, je vais parler ensuite beaucoup, donc on peut continuer. Alan au micro, est-ce que vous avez parlé des propositions faites sur notre liste? Olivier au micro. On a passé en revue, pour ce qui concerne le CWG et l'IANA, on a passé en revue les propositions, le diagramme. Pour ce qui concerne le CCWG, on ne l'a pas encore fait. On va le faire maintenant. On va même pouvoir voir quelques diapos par rapport à la responsabilité qu'on a passée ce matin, si vous en ressentez le besoin. Pour ce qui concerne le CWG, par rapport à l'ICG, le CWG a envoyé un rapport sur l'ICG au conseil d'administration et l'ICG a répondu avec un certain nombre de questions envoyées au CWG, des questions sur un certain nombre de détails concernant la proposition, un certain nombre de questions sans réponse. Or, au niveau de services requis pour les fonctions IANA, autre aspect concernant le point org et autres aspects liés à la propriété intellectuelle autour de cela. Et il semblerait qu'il faudrait créer un véhicule ou une mesure pour protéger les marques déposées. Autre question qui a été posée à l'ambiguïté de la proposition. À l'instant même, je n'ai aucun exemple qui me vient à l'esprit. Peut-être que certains de mes collègues peuvent me rappeler les questions spécifiques posées par les CSG au CWG. Si ça vous revient, n'hésitez pas à intervenir. Donc aujourd'hui, ce que tout le monde attend, c'est les conclusions des travaux du CCWG sur la responsabilité de l'ICANN. C'est pourquoi il y a autant de pression. Pour ce qui concerne les délais, la transition doit avoir lieu avant une date butoir. La raison étant que en période électorale, il y a très peu de choses qui se produisent aux États-Unis. Vous saurez que d'ici un an, il va y avoir des élections. Donc, il y a une date butoir qui a été fixée pour recevoir les propositions, pour que la NTIA reçoive des propositions. Et ensuite, il va y avoir un certain temps pour la mise en œuvre pour garantir cette transition. Donc, voilà un petit peu l'état des choses actuelles. Est-ce qu'il y a des questions sur la transition du rôle de supervision des fonctions IANA sur cet aspect-là? Cela ne semble pas être le cas. Si Tijani. Tijani au micro. Je suis un petit peu surpris d'entendre que l'ICG n'a pas demandé aux trois communautés, la communauté de nommage, de numéros et de normes, une réponse plus coordonnée pour éviter tout problème qui pourrait survenir après la transition. Olivier au micro. Merci Tijani. En fait, l'ICG a envoyé cette question. J'ai vu qu'il l'avait envoyé à l'IETF, le groupe de travail sur le génie informatique, en essayant d'avoir des explications par rapport à la réponse à cette question. Je crois que Sean a fait partie de cette liste de diffusion et je crois que tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'on a toujours travaillé de manière coopérative, c'est informel et on devrait continuer à travailler de cette manière. Donc si c'est le mandat de l'IETF, moi-même je ne travaille pas à l'IETF, mais tout le monde a dit, voilà, il ne s'agit pas de faire en sorte que notre travail soit plus formel. Il faut que ce soit, il ne s'agit pas de mettre en place un contrat imposé depuis le haut. Sean au micro. Oui, merci Olivier. Je crois que la réponse de l'IETF a été effectivement celle que décrite par Olivier. Je ne sais pas pourquoi l'IETF a décidé, entre guillemets, de ne pas s'impliquer dans ce processus autant qu'il aurait pu le faire, en particulier sachant que les adresses IP, les noms, etc., en termes de protocole, ont l'importance qu'ils ont. Donc, je suis très encouragée par la réponse des membres de la communauté dans la mesure où ils étaient très ouverts par rapport aux suggestions ou procédures qui permettraient de garantir ces conditions, que ce soit de manière formelle ou informelle. Mais l'IETF s'est montré très fermé par rapport à cela. Personne n'a parlé de procédures formelles, mais en tout cas, l'IETF s'est montré très fermé par rapport à cela. Or, personne n'a évoqué cela. Merci. Olivier, merci. Sean, Garce au micro. Oui, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au besoin de finir la transition avant une date butoir, avant les élections. Ici, ça n'a rien à voir avec les élections aux États-Unis. Il s'agit du mandat de notre président qui touche à sa fin et que le prochain président ne va pouvoir inverser la tendance. Et il y a eu énormément de criques exprimé par rapport à notre politique sur cette transition. Et il y a eu des mentions spécifiques faites par rapport à la conformité en particulier. Et c'est cela dont il s'agit. Olivier au micro, merci Garce. J'ai sur ma liste d'intervenants Tijani puis Sébastien. Tijani au micro, merci. Je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Garce, mais j'aimerais revenir sur ce qui a été dit par rapport à la coordination. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas de mettre en place un nouveau mécanisme de coordination, c'est d'avoir une proposition de la part des trois communautés et que ces propositions soient plus harmonieuses pour faire en sorte que le travail du PTI soit plus simple. C'est un petit peu la préoccupation ici. Donc je pense que l'IETF n'a pas répondu à la question telle qu'il aurait dû le faire. Merci Tijani. Sébastien.
Merci beaucoup.
Thank you very much.
En français, Garce, je veux bien qu'on réécrive l'histoire, mais Fadi Shaadeh a décidé de partir en mars, son mandat continuait bien après. Donc, c'est pas parce qu'il veut donner avant ou après. C'est, et on peut refaire l'histoire, mais la question depuis le début, c'est quand est-ce que ça peut se faire. Et il est clair que si ça ne se fait pas avant les élections présidentielles aux États-Unis, ça ne se fera pas maintenant. Je ne dis pas que ça se fera jamais, ou que ça ne sera pas par la prochaine administration, ou que ça ne sera pas par une administration suivante. Mais en tous les cas, il est clair qu'il faut qu'on prenne en compte le fait que les États-Unis vont changer d'administration, non pas au mois de novembre, puisque c'est les élections, mais au début de l'année suivante. Et franchement, le président, là, en l'occurrence, n'a pas grand-chose à voir avec le timing. Je pense qu'il faut que tout le monde soit préoccupé, effectivement, qu'on n'ait pas de problème avec le Congrès, qu'on n'ait pas de problème avec l'administration américaine et qu'on fasse la meilleure proposition possible. C'est ça qui doit être notre guideline, notre travail pour les prochaines semaines. Et ça ne doit pas être déjà simple. Merci.
Thank you.
Merci Sébastien Olivier au micro. Merci de ces commentaires, Alan. Alan Greenberg au micro. Oui, j'aimerais souligner le fait que la transition IANA n'est pas la seule question sur la table actuellement. Tout ce processus est en train d'être vu en tant que mise à l'épreuve du modèle multipartie prenante, qu'on le veuille ou non. Il y a des discussions qui ont lieu à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, par rapport au renouvellement de l'IGF. Il y a un certain nombre de pays dans le monde qui voudraient démontrer que le modèle multipartie prenante ne peut pas produire des résultats réels. Donc, que la direction de l'ICAN devrait être réduite et assumée par des groupes plus restreints. Donc, il y a toute cette incertitude, ces doutes. D'autres pensent que c'est un problème réel. Ce n'est pas finalement le sens du débat ici, mais il y a des gens à l'ICAN qui pensent que c'est un problème réel et que ça fait partie des problèmes qui sont sur la table. Olivier G. Heiligkeine, Sean et Panon. Donc, Heiligkeine d'abord. Heiligkeine au micro. Alors, par rapport à la transition aux États-Unis et le fait que l'IGAN puisse être plus indépendant, d'abord, je pense que l'Internet est né aux États-Unis il y a quelques années. Donc, l'Internet sera fort de cette manière. Et je pense qu'avec la structure de l'ICAN, on pourra réaliser cela. Mais d'un autre côté, l'Internet ainsi que l'ICAN sont devenus de plus en plus forts. Donc, il faut que l'on soit de plus en plus internationaux et forts. C'est comme un enfant, il faut qu'il puisse grandir et s'épanouir et devenir plus fort. On est tous d'accord avec cela. Ce n'est pas forcément lié à Obama et aux élections aux États-Unis de l'année prochaine. Mais c'est quelque chose qui devait se produire un jour ou l'autre. C'est comme un enfant qui a grandi et qui dit au revoir à ses parents et quitte la maison. C'est inévitable. Voir également ce qui s'est produit par le passé à l'ICAN, quel est l'historique de l'ICAN. Je ne serais pas d'accord pour qu'il y ait un organe suprême au-dessus du conseil d'administration, parce que ça modifierait la structure actuelle du conseil d'administration, y compris d'autres structures comme la LAC. Donc je pense que cela permet d'avoir la meilleure représentation. Nous, ici, nous sommes ici pour représenter les utilisateurs finaux. Donc, vis-à-vis des gouvernements et du GAC, leur responsabilité est de servir les gens. Également les entités commerciales. L'objectif même de leur existence, c'est d'être au service des gens. Donc, je pense que le conseil d'administration et la LAC disposent déjà de la meilleure représentation des gens dans le monde qui utilisent l'Internet et des enjeux qui sont internes à l'Internet. Donc, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait un organe au-dessus du conseil d'administration, en particulier pour le bien des utilisateurs finaux. Et je suis préoccupée par le fait qu'une telle structure au-dessus du conseil d'administration pourrait être accaparée par des groupes d'intérêt spécifiques, en particulier pas par des intérêts, des groupes d'intérêts commerciaux. Et je peux l'ICANN, au fil du temps, a démontré sa capacité d'évoluer. Mais nous ne voulons pas modifier totalement la structure actuelle et opérer une révolution en révoquant totalement la structure même de l'ICANN. Olivier au micro. Merci beaucoup, Kylie. C'est un élément clé dont on va parler dans un instant lorsqu'on va parler de la responsabilité. C'est un excellent point de départ. On va y venir. J'ai sur ma liste Sean, Stefano et Garth. Excusez-moi, Garth, je ne sais pas quelle position vous occupiez sur la liste des intervenants. Sean au micro. Merci. Je voulais simplement souligner un aspect du CWG, des questions de l'ICG au CWG. Ça concerne la réponse de Chris qui a dit que le point APA ne devrait pas passer par FR ou d'autres. Et cette question a été renvoyée au CWG pour préciser si cela allait faire partie des processus AFR ou IFR. Pour ma part, j'ai essayé de dire qu'on n'a pas répondu à cette question au CWG. Ça, c'est mon point de vue, en tout cas. Donc, si quelqu'un au sein du CWG pense que cette réponse a été correctement traitée, j'aimerais le savoir. Mais en tout cas, mon point de vue, c'est qu'elle n'a pas été correctement traitée. Olivier au micro. Merci, Sean. Je ne saurais répondre à votre question. Qu'est-ce que vous suggéreriez comme réponse? Peut-être qu'il faudrait suggérer une réponse sur la liste de diffusion, mais si l'ICG s'est contenté de cette réponse, est-ce qu'il faudrait s'inquiéter plus? Je ne sais pas. Ah non, au micro. Merci. Bon, beaucoup d'entre vous me connaissent comme membre du GAC, mais j'ai fini mon mandat à la fin de l'année dernière. Donc maintenant, je suis membre de l'Euralo et premier membre associé de l'Internet Society italienne. Passe actuellement, c'est très intéressant. Et ce que vous avez dit par rapport au délai pour terminer ce travail, ça, c'est un aspect très important, surtout par rapport aux élections dont vous parliez également. J'ai participé à une réunion au Sénat avec Fadi. J'ai vu les échanges entre Fadi et les sénateurs, surtout républicains, qui étaient préoccupés. Et il était question de savoir si 3 mois avant le terme du contrat, c'était suffisant ou pas. Et je pense que c'était le plan, parce que je crois que Fadi disait que l'objectif de ce projet, c'était de faire en sorte de finir ce processus avant la prochaine réunion de l'ICANN à Marrakech. Bien entendu, il y aura un certain nombre d'objections, en particulier de la part des riens, en sachant qu'il n'y a pas encore d'opposition formelle. C'est une bonne nouvelle partielle, en tout cas. Mais c'est très important. Ensuite, par rapport à... Ensuite, il y a eu d'autres commentaires aux États-Unis disant que la transition des fonctions du rôle de supervision de l'IANA, c'était finalement pas tellement important. Et que ce qui est important, c'est que les choses fonctionnent sans ajouter plus de complications. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ne s'intéressent pas tant à la transition IANA, mais à l'existence de l'ICANN. Et ça, c'est un point essentiel dans cette période. Et ça n'est pas facile à expliquer aux personnes qui ne connaissent pas vraiment la gestion du DNS. Olivier au micro. Merci, Stefano. Garth à la parole. Garth au micro. Merci. Oui, Sébastien, par rapport à ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il ne s'agit pas d'approuver un mauvais accord, parce que les résultats pourraient être bien pire, non seulement pour la communauté, mais pour tous. Ce que je dis, c'est qu'il faut lutter pour obtenir un plan
qui servent
les utilisateurs, les consommateurs, qui parlent aux consommateurs et qui sont utiles pour eux. C'est ça qui est important, ce n'est pas les détails. Olivier au micro, merci Gars. Et vous souhaitiez intervenir, non? Ah, excusez-moi. Donc Sean, vous avez la parole. Sean au micro. Oui, je voulais revenir sur le commentaire fait par Alan. Effectivement, je pense qu'une réponse simple, c'est que si l'ICG est satisfait, il ne faut pas se préoccuper plus. Mais j'aimerais toutefois dire que ça crée une fragmentation qu'on pourrait vouloir éviter. Si ce qu'on demande, c'est une chaîne pour que ce même GTLD soit soumis à un processus de révision de l'ERT, je pense qu'on court le risque d'une fragmentation. Si l'FR travaille sur une révision en amont, cela ne devrait pas affecter ce qui suit. Donc, je pense qu'il est important de travailler vers une possibilité de séparation pour l'avenir. Que tout le monde soit conscient de cela. Merci. Olivier au micro. Merci, Sean. Espérons que nous aurons une certaine stabilité après cela. J'ai sur ma liste Alan et on va en terminer sur cette question avec Christopher. Alan au micro. D'abord, pour répondre à Sean. Point ARPA, c'est finalement un autre TLD, mais la fraction dont il fonctionne fait que ça n'est pas un TLD supplémentaire. Donc, si la communauté de l'adressage veut l'utiliser d'une certaine manière et que nous en sommes satisfaits et que l'ICG est d'accord avec cela, je pense qu'il ne faut rien faire. C'est mon opinion personnelle. On peut l'utiliser comme un TLD quelconque et vous pouvez aller sur un site web avec, mais ça n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Donc, je suis d'accord pour l'utiliser de manière séparée. Je voulais souhaiter la bienvenue à Stefano, le présenter. Certains le connaissent avant même d'être membre du GAPC. Je pense que notre première rencontre remonte à 2000. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir parmi nous. Olivier au micro. Merci, Alan. Christopher Wilkinson, par micro. Pour ce qui concerne les risques de fragmentation dont Sean vient de faire là, je pense qu'il est très important, du point de vue d'être large, d'éviter et de décourager la fragmentation des fonctions pour permettre la plus grande participation et la plus grande supervision possible. Et les gens qui essaient de fragmenter cette transition du rôle de supervision des fonctions IANA, c'est ce qu'ils tentent de faire. Et il y a une évolution de l'opinion au cours de ces derniers temps. Je ne sais pas si ça remonte à Los Angeles ou pas. Donc, pour ne plus voter en faveur de structures pour s'orienter plus vers un processus. Et je pense que c'est très positif et c'est très encourageant du point de vue d'At-Large. Je pense que Alan et Olivier ont fait un excellent travail pour de ces derniers mois pour et de la représentation des intérêts des utilisateurs, mais pour l'avenir, peut-être dans un avenir proche, je pense que les travaux du CCWG vont se poursuivre. Il reste à savoir s'il faudra mettre en place toute décision pour mettre en œuvre ces décisions. Reste à savoir également qui va exercer le droit de vote, ce qui veut dire que le système est beaucoup plus ouvert pour laisser à un grand nombre d'entre vous de participer aux listes de diffusion, aux téléconférences, et donc mettre en fondé sur le consensus qui inclut la structure multipartie prenante, y compris donc dans l'intérêt des utilisateurs. Et ça, c'est une occasion à saisir.
Olivier Crépin-Leblanc, merci Christophe. Cela résume le sujet de la transition et cela nous amène vers la responsabilité, la partie de la discussion qui a à faire avec la responsabilité. Comme vous savez, s'il n'y a pas de consensus au niveau de la responsabilité de la CAM, la transition ne sera pas suivie. Je vais pouvoir passer le micro à Alan Greenberg qui a des diapositives qu'il a présentées déjà lors du symposium. Ce n'est pas le Canada. Ils ne sont pas établis en Irlande, même s'ils y travaillent. Mais on va utiliser cette diapo quand même et Alan va nous en parler. Cela va nous donner un petit peu un statut de l'état des choses avant. Et on va pouvoir parler un peu de ce qui s'est passé durant les 48 heures passées. Je suis Alan Greenberg, je m'excuse envers Tim qui a déjà vu cette diapositive. C'est la présentation que j'ai faite, si vous voyez la date. Je pense que c'est le 24 septembre, il y a 3 semaines à peu près, la présentation que j'ai faite donc au Canada. Ça reflétait donc la situation à l'époque, mais c'est un bon début pour refléter un peu ce dont nous allons parler durant cette réunion. Si vous pouvez passer à la prochaine diapo, c'est une bio pour moi. Non, on n'a pas besoin de parler de ça. C'est mon historique. Est-ce qu'on ne pourrait pas élargir? Voilà. Voilà, merci. Bon, alors, encore une fois, c'est une idée un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le modèle ICANN, puisque nous avons beaucoup de nouveaux ici, ça vaut la peine d'en parler. Nous utilisons le mot multipartite beaucoup. Toutes les parties viennent de parties de communautés très variées. C'est un groupe assez varié. Et il y a des groupes qui ont des perspectives différentes. Certains sont passionnés, certains ont des historiques, certains ont des problèmes à gérer encore. Ils ont des territoires à défendre, des sujets à défendre. Il y a beaucoup d'argent, il y a de la participation financière, des intérêts à préserver et à défendre. Et nous parlons de ce multipartitisme, mais nous savons qu'il y a des conditions qui rendent les choses difficiles. Il est difficile de trouver des compromis et ces compromis doivent satisfaire tout le monde et ce n'est pas toujours facile. Prochaine diapo. Merci. Donc, c'était donc la révision sur la transition et la responsabilité des fonctions de l'IANA. Il y avait un CCW qui ressemblait beaucoup au CCW chez les participants représentaient pas seulement les communautés ICANN, mais d'autres aspects du secteur du nommage et des communautés du nommage, incluant les IRS, les CCTLD, les ITF, les CCTLD qui n'étaient pas membres du CCNSO. Donc c'était un groupe très, 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 très large, très grand. Nous avions différents processus que nous avons utilisés, ce qui était raisonnable, ce que je considérais raisonnable aussi à la fin, mais nous aussi à la LAC, même si on disait que c'était trop complexe, trop cher. Mais bon, on considérait que ce serait satisfaisant. Le groupe responsabilité a été rassemblé pour participants qui venaient de l'ICANN, au sein de l'ICANN. Ils étaient en charge d'assurer que l'ICANN soit responsable vis-à-vis de la communauté. Bien sûr, sans définir le mot communauté. Hein. Donc, pour la prochaine diapo, la structure courante de l'ICANN, comme vous le savez, nous avons des SO qui sont responsables pour faire des recommandations vis-à-vis du bureau du conseil d'administration sur leur domaine, sur les GTL, CCTLD ou sur les adresses. Nous avons des AC qui sont des gouvernements at large, sécurité, responsabilité, serveurs, racines. Ce sont les gens qui doivent adresser les problèmes de la communauté, tout ce qui touche les limites des SO et tout ce qu'ils pensent qu'ils sont importants. Nous avons le conseil d'administration qui est sélectionné par les SO, par les ALAC et par le NOMCOM cela nomme pas vraiment, cela sélectionne. Donc, on ne devrait pas appeler ça NOMCOM. Mais bon, il s'agit de personnes qui viennent de toute la communauté au sein d'ICANN et en externe de l'ICANN. prochaine diapo. Quel est donc le problème? Nous faisons une sélection pour les gens du conseil d'administration. Nous pouvons les resélectionner, les virer pour la prochaine fois. Il y a vraiment un gros problème de confiance, déjà. Prochaine diapo. Il y a deux styles de... Il y a Chris Despain et George qui, avant d'être au bureau d'administration, étaient à la LAC. Ah, c'est une photo qui a été prise après qu'il soit élu au bureau d'administration, au conseil d'administration. Il y avait une perception. On ne pouvait pas leur faire confiance. On les a sélectionnés, on les a lus. Ils viennent du sein de notre communauté, mais on leur fait confiance. Mais en même temps, oui, excusez-moi. Oui, Olivier. Est-ce que les ex-membres du conseil d'administration perdent leurs cornes? Parce que je ne vois pas de cornes sur la tête de Sébastien. Alan, peut-être que Sébastien n'avait jamais eu de cornes. Oui, en fait, pour être honnête, ce sont des cornes qui ont été rajoutées. Oh, c'est pas très grave. Cornes détachables. Donc, la chose la plus importante qu'on devrait retenir, c'est qu'on ne fait pas confiance à ces membres du conseil d'administration. La plupart du temps, on les réélu. On les réélit quand leurs termes sont terminés. Quand on peut leur fiance, on ne leur fait pas confiance. Donc, c'est une situation intéressante, disons. Prochaine diapo. Le conseil d'administration, donc, on ne leur fait pas confiance. Malgré toutes les choses que l'on dise, ils sont perçus comme quoi ils sont plus concernés par les corporations, certaines parties prenantes. Ils ont des devoirs vis-à-vis des corporations, mais surtout vis-à-vis d'une certaine mission, la mission de ces corporations, qui est une petite subtilité, c'est différent. En fait, il y a des moments où il y a eu des conseils juridiques ont été donnés qui n'étaient pas bons, qui ont été émis, mais qui n'étaient pas corrects. Ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des choses, pas comme moi. Si j'avais été en place, j'aurais pas pris les mêmes décisions. Donc, il y a des choses que, point de vue que la communauté a soulevé, qui avaient du mérite de ce côté-là, au niveau de la confiance. Les solutions proposées, et c'est ce qui avait été publié en août par le CCWG, responsabilité, et ce qui doit être révisé maintenant, et il faudrait transformer l'ICANN en une organisation de membres, d'abonnement, de membres. Pas comme ça l'était avant, mais des personnes qui pourraient voter pour élire des membres du conseil d'administration. Donc, qu'il y ait un membre, et que ce membre serait composé de SC et de SO, qui dirigerait les membres en leur disant quoi faire. Des différentes AC et SO auraient donc un poids différent, qui pourraient proposer des solutions, qui pourraient changer les valeurs centrales de façon à restreindre l'ICANN pour qu'il soit plus sur la bonne voie et pas... Et il y aurait donc un panel de révision plus renforcé, un processus de recommandation plus... serré, disons, ce qui il y a beaucoup de cris à ce sujet les années passées, comme quoi ce n'était pas adéquat déjà. Cela permettrait aux membres SAC et SO le choix de participer et ainsi, comme par exemple le GNSO, le CTNSO, la LAC, peut-être aussi les SO, quoique ce n'est pas des organisations de soutien, pas forcément les SAC et les SSAC. Qui avait dit explicitement qu'ils étaient assez, qu'ils voulaient rester comme cela. Le GAC, nous aussi, n'était pas en position de prendre telle décision. La prochaine, nos inquiétudes. Le processus est compliqué, très complexe, parce qu'il y a un manque de participation de la part de beaucoup de SO et de AC. Il y a, par exemple, beaucoup de décisions sur lesquelles nous travaillons pourraient être décidées par une majorité, une supermajorité. Mais si nous avons trois, la supermajorité serait de deux. Le CCNSO, le GNSO, qui sont orientés plutôt de façon commerciale, même si certains d'entre elles sont à but non lucratif. Et ainsi, ils auraient la capacité... Ils auraient des pouvoirs, même si la LAC ne le pourrait pas. Certains pourraient rester silencieux. Donc, ça nous pose un problème. Il y avait un problème au niveau du budget aussi, parce que cela mettait ICANN dans une position plutôt compliqué. On ne pouvait pas empêcher Akan de dépenser de l'argent, mais le processus disait que nous pourrions, si nous ne sommes pas d'accord, nous pourrions mettre arrêter les dépenses durant le prochain quand le prochain budget sera publié. Réduire donc ainsi, on pourrait réduire les revenus, mais ne pas avoir autant d'argent à dépenser. Geler le budget au niveau de l'année d'avant, ou peut-être un peu plus haut, n'est pas forcément une chose rationnelle à faire. Une des missions, des valeurs les plus importantes, c'était de changer, c'était de retirer certains des aspects de l'intérêt public. Nous n'étions pas trop d'accord là-dessus. Il y a eu des moments où la communauté a été ignorée et des moments aussi on doit être capable de donner des informations au conseil d'administration, mais ne pas forcément avoir le contrôle. La communauté, à mon avis, souvent a mal jugé les choses que faisait le conseil d'administration. Comme nous passons beaucoup de temps des choses, des propositions qui sont qui ne sont pas intéressantes. Les gens travaillent beaucoup et disent qu'ils font du travail et essaient de convaincre les autres que ce qu'ils font, c'est correct. Quelle était la proposition dont vous parliez, Alain, Olivier ? Alain, oui, il s'agissait de créer une nouvelle compagnie qui flottait dans l'espace, sans propriétaire, sans membres, sans contrôle de qui était membre, et de recevoir des directions d'une autre entité qui était connectée avec elle, mais qui n'était pas connectée avec elle, et qui avait un certain contrôle, mais qui ne serait pas contrôlable. Je vous donne un petit peu une idée. En fait, c'est bien pire que ça. Non, mais franchement, je dois admettre, je vous donne ma version des choses, et pas la version des choses qui avaient été, des mots qui avaient été utilisés à l'époque. Définition qui avait été faite à l'époque. Je n'entends pas la question, je suis désolée. Christopher parle sans son micro. Ce n'était pas rationnel si vous présumez que c'était juste pour attraper un peu plus de contrôle, du pouvoir. Puisque les éléments inclus n'étaient pas là pour obtenir du plus de pouvoir, je vais vous dire simplement que pour moi, c'était une histoire. C'était fou. Enfin bon, voilà, on en était il y a 3 semaines. Où en sommes-nous aujourd'hui? La question à l'époque de cette présentation était que nous attendions donc des commentaires, ou alors je pense que la période de commentaires était fermée, je ne sais plus où on en était. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, quand ICANN a des problèmes, nous avons des périodes de commentaires publics. Il y avait donc beaucoup de commentaires qui avaient été. Donc, les commentaires du board qui disaient « Nous ne sommes pas d'accord. Nous soutenons l'intention, mais nous ne soutenons pas le mécanisme. » Ils l'ont dit d'une façon qui n'était pas bien présentée, disons. Et quand on a ajouté ça au désaccord qu'il y avait déjà au CCWG, les gens du CCWG ont dit que c'était une protestation qui ascendante, et le board ne pouvait pas leur dire, le conseil d'administration ne pouvait pas leur dire quoi faire. Je pense que c'est correct, mais malgré tout, si vous approchez les choses avec un point de vue qui n'est pas tant aussi émotionnel, le CCWG doit faire une proposition qui doit être envoyée au NTIA à Washington. Le conseil d'administration, bien sûr, aura des commentaires à faire si c'est approprié. Le NTIA et le Congrès ne vont peut-être pas forcément être en approbation. Disons qu'ils sont en approbation, ils sont d'accord. Cela revient vers le conseil d'administration afin de mettre en place de nouveaux statuts. Si le conseil d'administration sent que c'est leur devoir financier, disons, même si ce n'est pas vraiment financier, ils doivent prendre des décisions sur ce qu'ils croient être le meilleur intérêt de l'organisation. Et dans le cas de l'ICANN, c'est adresser ce qui est la mission et la sécurité de l'organisation. Si le conseil d'administration, vrai ou faux, croit que les choses ne sont pas positives pour l'ICANN, ils doivent légalement dire qu'ils ne vont pas le faire. Donc, en fait, la responsabilité mise en place est pour le conseil d'administration. Donc, dans tous les cas, le conseil d'administration présentation ne l'a pas forcément bien faite. Il y a eu une téléconférence qui a duré 3 heures, qui n'était pas bien faite du tout. Même pire que ça, ont décidé que nous avions besoin donc d'une réunion face à face. Et cela a été mis en place à Los Angeles il y a quelques semaines. Nous avons une réunion de 2 semaines. Le conseil d'administration était déjà à Los Angeles pour un groupe de travail qu'ils avaient déjà sur leur agenda. Ils ont annulé cela et ils ont donc mis en place cette réunion. Le premier jour n'a pas été très productif. La deuxième journée a commencé de façon, a été très productrice. Nous avons fait beaucoup de bon travail. Tout le monde était très positif. Et le directeur du conseil d'administration a fait une déclaration. Et la déclaration a été reçue, n'a pas été bien reçue. Pas dans l'intention, mais ça a été pris comme une claque. On dit, nous sommes le bureau d'administration, conseil d'administration, nous n'allons pas écouter votre avis, c'est ce que nous allons faire, prenez-le, et voilà. C'est comme ça que cela a été reçu, ce n'était pas donc une atmosphère très positive. Beaucoup d'entre nous sont partis de Los Angeles sans comprendre comment nous allions aller de l'avant. Passons 2 semaines, beaucoup de travail a été fait par les groupes de travail, analyser les commentaires, retourner vers les bases. Qu'est-ce qui a été dit par le conseil d'administration? Est-ce qu'on peut faire notre travail de bonne manière? Ben, il a été fait, donc nous sommes arrivés... Où est-ce qu'on est? À Dublin. Ah, nous sommes arrivés à Dublin, nous avons une réunion hier, comme si le ciel s'était ouvert et que le soleil avait brillé. Nous pouvons maintenant voir qu'il y a une bonne possibilité que nous allons pouvoir... atteindre un accord, quelque chose d'acceptable vis-à-vis du gouvernement américain peut-être aussi. C'était dur de prédire cela en sortant de Los Angeles, mais malgré tout. Bon, quelle est l'essence du changement? Au fait, le conseil d'administration n'est pas d'accord avec tout cela d'ailleurs. Il y a des membres du conseil d'administration qui disent non, ça ne se passera jamais. Mais nous espérons que cela passera malgré tout. L'essence de ces idées, de ces changements, c'est plusieurs choses. En premier, les membres. Une organisation de membres a des pouvoirs en dessous de la loi californienne. Et c'est, on ne va pas débattre ça, c'est une corporation américaine. C'est la capacité des membres qui puissent changer les statuts. Unilatéralement, sans l'approbation du conseil d'administration. Cela permet aux membres de mettre en place un budget, de dissoudre la corporation. Il y a des droits statutaires. Le contrôle n'a pas encore été testé dans les tribunaux californiens, malgré tout. Il y a donc il y a une peur qui règne dans l'organisation. Comme je l'ai dit, la communauté ne se prononce pas forcément de façon positive. Même s'ils pensent qu'ils font les choses de façon positive. Il y a donc une conception en Californie qui s'appelle les personnes qui désignent, personnes qui peuvent élire ou mettre en place, mettre des membres du conseil d'administration. Il y a encore un simple mécanisme, une personne qui désigne un simple peut élire donc des membres, cela ne change pas. Ces directeurs peuvent être aussi démis. Cela donnerait au directeur, au conseil d'administration, qu'il puisse aussi remplacer soit un membre de sa administration ou tout le conseil d'administration. Le veto budgétaire n'est pas permis, mais on pense qu'on parle maintenant de choses qui seraient similaires, qui pourraient satisfaire quelqu'un. Cela a à voir avec ICANN, a mis des processus budgétaires en place durant ces derniers mois qui servent la communauté de meilleure façon qu'ils le faisaient auparavant. Les autres pouvoirs sont là. Les pouvoirs dont on a parlé, la capacité d'améliorer certains statuts, de rejeter certains statuts qui ont été changés par le conseil d'administration, la capacité de... Et l'autre. Je pense qu'on a parlé de tous ces... toutes ces capacités. Il y a donc des inquiétudes au sein du conseil d'administration que ce modèle de désignateur, disons, simple, n'est pas acceptable. Il y aurait une façon de le faire qui pourrait être acceptable, mais on a beaucoup de travail à faire à ce sujet-là dans les jours à venir. Quand il s'agit de délai, même si beaucoup de personnes pensent que nous ne sommes pas pressés, si nous voulons que cette transition soit faite dans les délais que nous avons regardés et que le NTIA a mis en place, nous devons, doit être une affaire faite, tout doit être mis en place, ou virtuellement du moins, d'ici la fin de janvier. Cela prend à peu près un mois au mieux pour en accord avec les changements de statut, puisqu'il y a la période de commentaires du conseil d'administration. Cela veut dire que nous devons fermer et que tout soit accepté par les AC et les SO d'ici la fin de l'année. Donc là, par contre, la LAC et le GSO peuvent voter entre les sessions en leur réunion de façon électronique, durant leur réunion mensuelle. Il y a une autre. Toutes les autres sortes d'organisations, telles que les SAC, le SO, peuvent fonctionner assez facilement. CAC et le CCSO ont un problème plus important. Si nous pouvons leur présenter un projet qui soit presque terminé, disons d'ici mardi, il se pourrait qu'ils pourraient approuver cela entre les réunions au mois de décembre. Si nous ne leur donnons pas quelque chose comme cela, qu'ils ne puissent pas en discuter, sur lequel ils ne peuvent pas voter, nous allons encore devoir attendre une prochaine réunion à Cannes, probablement en décembre. Il y a des changements qui pourraient être faits à la structure en 2002, par exemple, où il y a eu une réunion qui s'était faite en décembre 2002. Donc il y a des précédents là-dessus, il y a des antécédents, pardon. Je pense qu'il faudrait quelque chose qui soit mis en place, pas forcément détaillé, mais qui pourrait satisfaire le CCNSO et le GAC. Et on aura certainement besoin d'une réunion au début décembre pour qu'on puisse avoir une position formelle. On en parlera. Olivier, merci Alain de toutes ces notes positives que vous nous avez données à la fin de votre présentation. Je sais que le panel... Alain, je ne fais pas de prévision sur ce que ça va se casser la figure, mais ça pourrait se casser la figure. Olivier, oui, je sais que le personnel essayait de chercher les diapositives que Fadi avait partagées sur les scénarios de délai. Je pense qu'ils vont les trouver. D'abord, c'est le micro en premier, peut-être un des coprésidents du CCWG pour qu'il puisse s'exprimer. Lian Sanchez, par exemple, je vous regarde. Je parle de vous puisque vous avez fait ça d'un autre angle en tant que coprésident. Vous avez été inclus dans toutes les choses qui se sont faites derrière la scène, tous les problèmes d'organisation afin que le comité puisse fonctionner et puisse s'écouter entre eux, pas seulement parler. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez rajouter sur les processus et où nous allons Léon Sanchez au micro. Je pense que Alain a décrit le processus très, très bien. Je rajouterai très peu. Où nous en sommes maintenant, c'est que nous avons fait beaucoup de progrès depuis LA, depuis Los Angeles. Comme Alain l'a dit très justement, rien n'était précis, rien n'est sûr, tout peut se casser la figure, mais nous sommes suspendus, disons, à un petit fil. Hein. Nous sommes suspendus par un fil très fin, disons. Je pense que ce que l'on a vécu à Los Angeles avec la déclaration du conseil d'administration, beaucoup de personnes m'ont demandé quelles étaient nos options à la suite de cela. À mon avis, c'est de dire que nous n'avons pas d'options. Nous devons continuer avec la transition. On ne peut pas avoir un échec. Et ce n'est pas seulement la transition IANA qui est en jeu. Nous parlons du modèle multipartite à large. Donc, c'est une très grosse responsabilité que nous avons ici dans nos mains. Fadi, les diapositives de Fadi ne sont pas mises à jour. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de les regarder ou de. Les informations ne sont pas mises à jour. Il y a des inexactitudes. Cela ne reflète pas des choses exactes. Cela pourrait nous mener dans une mauvaise direction. Donc, je pense que ça avait été mis en place. Maintenant, à l'époque, c'était mis à jour. Mais maintenant, non. Donc, nous avons eu une bonne conversation avec le GAC aujourd'hui, qui a porté ses fruits. Un des obstacles les plus difficiles à dépasser, c'était sur les valeurs centrales et les engagements. Transtest 18. Transtest 18, cela en référence avec les statuts, les provisions dans les statuts qui parlent que le conseil d'administration ne prenne pas l'avis du GAC. Quand ils ne prennent pas l'avis du n'accepte pas l'avis du GAC, trouve une solution pour essayer de résoudre les différences entre le GAC et le conseil d'administration et essayer d'avoir un accord ou un compromis pour aller de l'avant, pour mettre en place, en application, l'avis du GAC. Donc, le stress test 18 propose de changer les statuts pour que seulement un consensus sur l'avis du GAC qui est fourni par consensus au board soit pris en compte. Bien sûr, en essayant de trouver un point commun pour essayer de suivre cet avis du GAC. Et bien sûr, le GAC n'est pas très, très, très chaud là-dessus parce qu'ils ne veulent pas que le CCWG, d'ailleurs, n'importe qui, de leur dire comment ils peuvent fournir un avis au conseil d'administration, lié consensus ou pas. Donc, ça a été vraiment un obstacle qui a été difficile à dépasser à ce stade, mais je pense que nous allons voir des retours d'informations positifs d'ici très peu. Même au sein du GAC, il y a des positions différentes. Il y a des gens qui disent que mettre en application le stress test 18 va amener une participation importante au sein du GAC et que cela forcerait certains des membres du GAC qui ne sont pas toujours actifs de devenir actifs, de participer et de montrer s'ils peuvent soutenir tel ou tel avis. Il y a aussi une autre partie des membres du GAC qui sont pas trop sûrs de la mise en application de ce changement. Donc voilà ce qu'il s'agit du stress test 18. L'autre point de discussion quand il s'agit du GAC est lié à l'engagement vis-à-vis des valeurs centrales et valeurs principales. Je crois que c'est un gros problème. Je pense que les plus faciles de résoudre cela que le stress test 18, mais il s'agit de langage qui décrit l'ICANN, une organisation de secteur privé. Cela apporte bien sûr des inquiétudes vis-à-vis du GAC parce qu'ils disent oui, si c'est un environnement multipartite, et où se trouvent les gouvernements dans ce système? Certainement, un problème qui sera plus facile à régler, mais nous devons trouver des points communs et nous devons travailler sur un langage qui soit adéquat afin de pouvoir de s'assurer que tout le monde est heureux de la décision.
Olivier, au micro. Oui, Alan voulait ajouter quelque chose à sa description. Puis sur ma liste, j'ai Sean, Christopher et Stefano qui vont intervenir. Alan, au micro. Oui, il y a eu un changement lors d'une réunion de ce matin. D'ailleurs, certains de mes collègues n'étaient pas là ce matin. Il y a eu un changement de fond dont je n'ai pas parlé ce matin. Le modèle qui a été supposé en août, c'était un modèle de composition. Ça aurait pu être un modèle du désignateur qui veut que chaque SO et AC qui choisissent de participer est un certain nombre de voix. Chaque voix pourrait être sous-divisée. Donc la GNSO peut accorder un quart de ses votes au bureau d'enregistrement, aux opérateurs de registre, etc. Donc en fonction de leur représentation, la LAC pourrait diviser ses votes en fonction des RALO, par exemple. Les différentes AC et SO donc auraient différents voix. La LAC et le GAC et 3 SO pourraient avoir 3 votes chacun. Le modèle actuel veut que chacun ait une voix au chapitre sur la question. Le modèle précédent disait qu'il fallait, pour faire telle chose, disposer de 16%, 17% des voix en faveur pour voir quel était le vote total. Donc, la proposition actuelle de ce matin, par un petit groupe, est la suivante. Plutôt que de comptabiliser, on voit combien de AC et des SO sont en faveur, combien sont contre. Peut-être que certains s'abstiennent. Et donc, pour exercer la possibilité de modifier les statuts fondamentaux, par exemple les caractéristiques essentielles, il faut que 4 AC et SO soient en faveur et qu'il n'y ait pas plus d'une objection. Donc, s'il y a plus d'opposition, cela ne passe pas. Donc, pour révoquer tous les membres du conseil d'administration, il faut qu'il n'y ait pas plus d'une objection. Il y a des contre-propositions disant qu'il faudrait qu'il y en ait plus de 5 en faveur ou que quiconque s'opposant fait que cette proposition ne peut pas aboutir. Et s'il y a une abstention, on ne peut pas révoquer tous les membres du conseil d'administration. Elle est relevée de leur fonction. Donc, c'est un changement mensuel parce qu'on passe d'un schéma de vote en pourcentage vers un modèle plus consensuel. Et on fixe des seuils très forts. Donc, aucun de ces pouvoirs ne peut être exercé par un seul ou deux intérêts au sein de l'ICANN. Il faut qu'il y ait plus de soutien général. Donc, que ces propositions sont bonnes ou pas, mais c'est une position qui se rapproche beaucoup plus au type de modèle de gouvernance qui est du goût de l'ICANN. Excusez-moi, j'ai oublié de parler de cet aspect-là des choses, mais c'est important de le signaler, ce changement qui est intervenu donc ce matin. Olivier Crépin-Leblanc au micro. Oui, Sean. Sean au micro, merci pour ces commentaires. Deux points concernent Guy Léon, je ne pense pas qu'il s'agit d'un problème uniquement lié au GAC, au fait de savoir si l'ICANN est surtout menée par ou répond surtout à des intérêts commerciaux. Or, au GAC, je pense que l'une des principales questions, et d'ailleurs il serait très bon que le GAC accepte cette proposition, mais j'en doute. Il souhaite modifier la définition du processus. Pour le GAC, apparemment, consensus, ça veut dire que tout le monde accepte et que si un pays n'accepte pas, alors il n'y a pas de consensus. Je ne sais pas changer cela. Donc, j'en viens à mon commentaire principal qui est lié à la manière ou à l'orientation que prend cette proposition. Ça, c'est une bonne chose. Toutefois, le modèle lui-même, qui tend à adopter une approche fondée sur le désignateur et à la composition, je pense que la LAC doit reconnaître que c'est, dans le meilleur des cas, un compromis. Les autres communautés doivent voir que nous le voyons comme un compromis. Ça n'est pas nécessairement ce que nous voulons. J'ai parlé avec quelques personnes et on a l'impression qu'on fait pression pour qu'il y ait un désignateur au sein de la LAC. Or, c'est un compromis et je ne sais pas pourquoi non plus nous voulons nous en tenir au membre unique. SM en anglais, donc sole member, membre unique. Je pense que certaines des décisions adoptées permettent de choisir un autre modèle qui est possible en dehors de ces deux modèles. Le sous-groupe qui examine l'aspect lié à l'application de cette décision dit qu'il existe encore la possibilité pour le conseil d'administration d'avoir recours à un tribunal. Donc, je ne vais pas approfondir cela, mais j'insiste sur le fait que c'est un compromis. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est notre première option. Olivier au micro, merci. Je sais que beaucoup de personnes souhaitent intervenir. J'ai Christopher Wilkinson, Stefano Trumpi, moi-même, pour poser une question qui va dans le même sens que celle que vient de poser Sean, Alan et Léon, qui, je l'espère, va pouvoir répondre à la question. Nous n'avons plus qu'une demi-heure. Dr. Wilkinson. Attendez pour répondre, Léon dit Olivier, parce que moi aussi j'ai une question à vous poser. Donc, Christopher, par micro. Commentaire général par rapport à la communauté. Je pense que toutes les SO et AC, y compris nous-mêmes, devraient se montrer humbles par rapport à ce qu'est la communauté vis-à-vis du monde extérieur, par rapport à vos propres membres dans votre environnement. Il y a des SO et AC qui, parce qu'elles font partie de l'ICANN, peuvent prendre des décisions politiques et qui ne seraient pas reconnues de manière générale en dehors de cet environnement. Donc, je pense qu'il faut se montrer humble et ne pas perdre de vue. C'est vraiment important que pour les SO et AC qui ont des membres, que leurs intérêts ne se limitent pas à leurs membres. Toutes les ACSO ont la responsabilité de s'assurer que l'ICANN respecte l'intérêt public et les intérêts des utilisateurs finaux. Léon, je voulais faire référence à un texte que je lisais hier soir. Il s'agit du projet des nouvelles valeurs fondamentales. Et il y a certaines ambiguïtés qui doivent élucider parce qu'il y a trois niveaux d'intérêt public actuellement. D'abord, le conseil d'administration est censé respecter l'intérêt public. Donc, je répète, le conseil d'administration est censé respecter l'intérêt public. Mais il y a une procédure qui veut que l'intérêt public doit être déterminé par le processus de développement des politiques ascendant. Donc, le GAC et les gouvernements reconnaissent qu'ils sont responsables de la politique publique. Donc, ça, c'est un petit peu perturbant. Et je pense qu'au sein du CCWG, il faut revoir un petit peu ces textes parce que vous ne pouvez pas avoir le conseil d'administration, le GAC et le processus de PDP qui produisent tous des choses qui vont dans le sens de l'intérêt public. Olivier Crépin-Leblanc. Oui, Stéphano. Stéphano, micro. Merci. Alan, vous avez d'abord prononcé le mot complexité. En fait, plus on discute, plus la complexité augmente. Mais je dois dire que nous espérons que les travaux sur la responsabilité arriveront à bon port d'ici le début de l'année prochaine. Le rôle du GAC est très important à cet égard parce que les gouvernements cherchent des définitions comme les ressources critiques, voir quel est le mandat de l'ICANN, etc. Et j'espère réellement qu'on pourra, d'ici janvier, mars, en tout cas d'ici Marrakech, venir à un accord avec le GAC. Je pense qu'étant donné que les gouvernements travaillent au service des citoyens et dans l'intérêt des citoyens, notre rôle et de faire en sorte que les choses soient aussi simples possibles et de ne pas compliquer ce processus. C'est simplement une recommandation que je vous fais. Olivier, merci beaucoup, Stéphano. Ah, c'est à moi d'intervenir. Alors, la question que je voulais poser à Alan et Léon, c'est justement celle qu'a posée Sean. Jalak disait qu'on pouvait vivre ou tolérer un modèle d'adhésion. Mais si toutes les AC et SO acceptent ce modèle d'adhésion, est-ce que les choses ont changé? Parce qu'il semblerait que, par rapport à ce qu'a dit Sean, on peut accepter un modèle de membre unique, Soul Member Model en anglais. Est-ce qu'on a besoin de ce changement? Est-ce qu'on a besoin de parler de ce dont on a réellement besoin? Donc, c'est une question que je vous adresse à vous, Alan et à Léon. Et vous êtes le prochain sur ma liste, donc vous pouvez répondre d'abord à votre question et faire vos commentaires. Alan, au micro. Or, au modèle. Nous avons dit que l'on peut accepter le modèle d'adhésion avec certains changements, mais pas par rapport au modèle lui-même. Je pense que c'était vrai à l'époque. que ce qu'on a dit à l'époque, c'était que ça allait certainement être accepté à l'époque. On ne savait pas que le conseil d'administration allait le rejeter. Donc je pense que s'il fallait revoter, et d'ailleurs on pourrait parfaitement le faire mardi, on pourrait dire que ce modèle d'adhésion, ça n'est pas le modèle qui remporte notre faveur aujourd'hui. Je suis d'accord avec Sean par rapport au fait de savoir si le modèle du membre unique, c'est un compromis. Est-ce que c'est le modèle qu'on aurait inventé si nous devions recommencer de responsabilité de l'ICA? Non, mais toutes ces décisions multiparties sont des compromis. Et au CCWG, nous opérons beaucoup plus de compromis qu'ailleurs. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sean. Ça n'est pas parfait, ça n'est pas ce que j'aurais fait si j'étais roi, mais je ne suis pas roi. Olivier, au micro, quel serait votre modèle parfait, alors, idéal ? Alan, au micro, je parlerai d'un modèle de confiance, d'un changement dans les statuts. Aujourd'hui, la LAC, l'IAC, SO, etc., ne désigne plus de directeur, mais désigne ses membres. Le nomme comme non plus, d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'ils ont agi un petit peu à la légère à l'époque, et on aurait dû, et s'ils avaient pu l'éviter, ça aurait été mieux. Mais nous sommes ceux qui avons nommé les membres du conseil d'administration. Donc, les choses auraient été différentes. C'est un compromis, mais peut-être que ces décisions auraient pu ne pas être prises. Par rapport aux statuts originaux de l'ICANN, il était dit que le secteur privé, par opposition au gouvernement, si vous allez sur Google et que vous tapez secteur privé, vous trouverez plusieurs définitions. Aucune n'est vraie ou véritable. On parle d'entreprises à but lucratif. Certains incluent la société civile dans le secteur des bénévoles. Donc, les usages de ce terme varient en fonction des régions et des pays. Donc, on ne dit pas qu'on est le secteur privé. Le groupe a essayé de maintenir les termes originaux. Moi, ça ne me dérange pas beaucoup. Ce qu'a dit Stefano, et par rapport au fait d'être aussi simple. Oui, effectivement, on pourrait essayer d'être plus simple, tout en essayant de trouver un compromis. Je ne sais pas si on y arriverait. Olivier Omile, oui. Cheryl, très rapidement. Cheryl, au micro. Après ce que j'ai compris lors de nos échanges ces derniers jours, on s'est mis d'accord pour modifier l'expression de privé. Que le CCWG l'a retiré du projet de texte. Olivier au micro, merci Chaou. Léon au micro, oui, c'est justement avec cela que je voulais répondre à Sean. Oui, ça a été retiré donc. Je n'ai pas dit que le GAC était mené par le secteur privé et que c'était la seule question dont il était qui était traitée. Je n'ai pas dit que c'était la seule question qui était traitée, mais une question parmi d'autres. Par rapport à la désignation, je pense que ce modèle de désignation, ce serait le modèle qui remporterait la faveur de la LAC. Qu'il soit parfait ou non, ce modèle, je ne pense pas qu'il soit. Donc, je ne parle pas en tant que membre de la LAC, mais je parle du point de vue de ma position en tant que coprésident. Je pense qu'il s'agit là du modèle qui impliquerait le moins de changements dans notre structure, dans nos statuts, et qui permettrait à la communauté de poser des pouvoirs que nous essayons de lui conférer. Olivier, au micro, lorsque vous parlez de désignateur ou responsable de la désignation, est-ce que vous parlez d'un responsable unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens dans la salle? Léon Micro, un responsable de la désignation unique, ça voudrait dire qu'un organe, si besoin et lorsque nécessaire, ce serait l'organe qui aurait les compétences pour appliquer les droits de la communauté. Donc, ce modèle implique de modifier les statuts de sorte que ceux de la désignation unique disposent de certains pouvoirs, comme révoquer tous les membres d'administration, tous les membres du conseil d'administration, donc modifier les statuts, rejeter les statuts, bref, tous les pouvoirs dont on a parlé au CCWG. Donc, le pouvoir de ce responsable de la désignation unique, ce serait ses pouvoirs. À tel point que vous, si vous avez un conseil d'administration qui ne veut pas agir conformément au statut, alors ce responsable unique aura l'habilité, après un processus, aura donc la possibilité, en dernier ressort, de se tourner vers les tribunaux, parce qu'il y aura tout un processus d'étalonnage qui va nous éviter justement d'aller devant les tribunaux. Mais s'il y avait besoin d'aller devant les tribunaux, alors ce serait cette personne, responsable chargée de la désignation unique, qui, et si elle, le conseil d'administration ne veut pas se conformer à telle ou telle chose, peut se tourner vers les tribunaux. Évidemment, tout est possible, mais, et c'est important, contrairement aux responsables de désignation multiple et à ce modèle, pour qu'ils puissent exercer ce pouvoir, il faut que tout le monde soit pour exercer ce pouvoir. Et là, tout SO ou AC responsable de la désignation aura la possibilité de se tourner vers les tribunaux pour faire face à ce type de situation. Donc, il faudra qu'ils soient tous d'accord pour exercer ce pouvoir. Vous aurez compris mon explication. Est-ce que j'ai été claire? Oui, c'est clair pour moi, dit Olivier. Léon au micro, j'espère que je ne vous ai pas plus semé le doute qu'auparavant. Olivier au micro, oui, je vais ajouter quelque chose, mais d'abord, Alan, est-ce que vous vouliez expliquer le terme de responsable de la désignation? Alan au micro, responsable de la désignation, c'est un terme qui, au regard de la loi californienne, peut nommer et révoquer des membres du conseil d'administration. Mais ici, on va saisir l'opportunité, une fois qu'on a un responsable de la désignation, pour lui conférer d'autres pouvoirs. Donc, plutôt que de rejeter une modification ou l'approuver, ça n'est pas un droit du responsable de la désignation, mais c'est un pouvoir qu'on lui confère. Donc, c'est un terme un petit peu confus, peut-être, mais c'est un terme qui a un sens très particulier au regard de la législation californienne. Olivier au micro, oui, j'ai une liste d'orateurs. Sébastien, c'est Eduardo ensuite qui veut intervenir, oui. Donc d'abord Sébastien, Léon, puis Eduardo.
Oui. Sur ce sujet de modèle, je pense qu'un progrès qu'on pourrait faire serait de faire un peu de travail sur la langue et sur les mots utilisés. Parce qu'à force de mettre du sens dans qu'est-ce que ça veut dire un designator à l'ICANN, je rappelle que dans le board, il y a des membres votants et des membres non votants. Ils sont tous désignés par des structures de l'ICANN, que ce soit par le Nominating Committee, soit par les SONSI. Et tous, toutes les SO et toutes les AC, ont un représentant au board, ont une personne qu'ils ont choisie pour être au board. Il s'avère qu'il y en a 4 de celles-là qui ne votent pas, plus un qui vient de l'IETF, donc qui vient de l'extérieur du board, vient de l'extérieur de notre organisation, de nos structures internes, mais qui sont à l'ensemble des discussions. La seule différence entre un membre votant et un, et une liaison, c'est le fait que la liaison ne vote pas. Mais à part ça, les droits sont aujourd'hui les mêmes. Et donc, je serais assez curieux de voir comment est-ce que les avocats décident désignerait le GAC, le RSAC, SSAC, etc. Quand ils désignent quelqu'un pour être liaison board, ils ont aussi un rôle ils désignent, quoi. Un designator, comme ils disent en anglais. Alors, la question, c'est Saul fait peur aussi aux membres du board. Oui, de temps en temps, les concepts un peu compliqués, ça m'en prend plus que 2 minutes, excusez-moi. Le problème du Saul, c'est que la réponse du board, c'est vous concentrez tous les pouvoirs dans une seule main. Et donc, il y a un risque de concentration et donc de perte de... en fait, il y a un risque de capture. Or, dans notre esprit, je crois que le fait qu'il y ait un seul, c'est à l'inverse pour éviter la capture, parce que c'est tous ensemble que nous allons décider. Si je reprenais une expression de D'Artagnan, c'est pour ça que j'ai parlé en français, c'est « tous pour un pour tous », serait là exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire, on a besoin d'être tous ensemble et on a besoin d'avoir une voix qui représente ce tous ensemble. Je crois que c'est intéressant de travailler sur le terme et changer de sole designator model pour quelque chose d'autre qui serait, je ne sais pas quoi, mais qui parlerait de communauté, ensemble et de collectif. On joue collectif, on joue en équipe et on ne joue pas chacun séparément. Quand on est dans la Coupe du Monde de rugby, je dirais bien que les 7, il en manque un pour faire la mêlée, mais c'est... tous ensemble qu'on peut pousser, et c'est ça qu'il faut qu'on trouve comme terme de ce qu'on veut créer. Après, la façon dont on les appellera légalement, c'est encore une autre histoire. Merci.
Thank you, Sébastien. Next we have Jan Scholte.
Olivier, oui, maintenant, Jan Scholte, micro, Jan Scholte. Merci, Olivier. Merci de me passer la parole. Je ne suis pas un membre de l'ALAC, mais je suis un des... des personnes qui donnent son avis au CCWG pour la responsabilité. Donc, pour tous ceux qui peuvent m'aider à clarifier un certain point, comment est-ce que ce responsable de la désignation unique, ce modèle, soit différent du membre unique, du modèle membre unique, de telle façon à ce que le conseil d'administration va accepter ce modèle alors qu'il n'accepte pas le modèle de membre unique? C'est crucial à ce stade. Léon a levé sa main. Alors, Léon Sanchez au micro. Répondre à John, la différence fondamentale entre le modèle de membre unique et de responsable des désignations uniques, le membre unique a des pouvoirs légaux. Quand on a un responsable de désignation unique, la différence, c'est qu'il n'a pas de pouvoir légal. Il a seulement des pouvoirs que l'on lui confère dans les statuts, mais il n'a pas de pouvoir légal. Donc, cela pourrait permettre au conseil d'administration d'accepter cette notion du modèle de responsable d'initiation unique. Olivier, je pense... Yann, au micro. Si j'ai bien compris, le conseil d'administration n'est pas d'accord avec pouvoir, la notion des pouvoirs. Des pouvoirs, que ce soit par statut ou par... Comment ? Yann, oui, ce que j'ai compris, ce que j'ai lu sur la position du conseil d'administration, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec le membre unique parce qu'ils pensent que cela pourrait être un déséquilibre, trop de pouvoir vis-à-vis de la communauté, sans qu'il y ait une bonne responsabilité. C'est ce que j'ai compris, moi. C'est ce que j'ai compris personnellement. C'est mon interprétation personnelle. Je veux m'assurer que vous sachiez cela. C'est mon interprétation. Et cela, donc, on pourrait éviter cela si l'on utilisait le modèle de responsable de la désignation unique. Mais c'est moi qui interprète ça comme ça. Olivier, Alan, vous voulez rajouter quelque chose ? Alan, les membres dans les statuts californiens ont des droits quand il s'agit de changer les statuts. La capacité, évidemment, de fermer la lumière dans la salle aussi. Bon, les membres On a beaucoup de pouvoirs sur lesquels on peut surpasser les devoirs légaux du conseil d'administration. Donc, un responsable des désignations. Le problème, encore, le conseil d'administration a un problème avec le mot unique. Il faudrait qu'on fasse mon avis. Et je pense qu'ils travaillent avec des informations qui leur ont été données qui sont incorrectes. Mais enfin, bon, c'est encore à voir. Olivier, Yann, vous avez un suivi là-dessus? Oui, Yann, au micro. Oui, en fait, je pense que c'est finalement équilibré maintenant. C'était très clair, les détails, mais je pense que si les gens se sentaient... Ce n'était pas très sécurisé sur la définition. Il vaut mieux être. Ils ont pensé qu'il va mieux être conservateur et ne pas être d'accord. C'est pas forcément la bonne position sur laquelle on peut se baser, disons. Olivier, Eduardo Diaz, au micro. Sean, j'ai vu que vous vouliez parler. Je ne l'avais pas vu à temps. Vous avez perdu votre place, mais vous reviendrez dans la. Vous pourrez vous exprimer après. Eduardo Diaz, j'ai une question. Je suis un peu confus. Quand on parle de membre unique ou responsable de la désignation unique, on parle d'un groupe de gens ou d'une personne? Est-ce que c'est une chose? La deuxième chose, c'est... Ça veut dire quoi, statuaire légal? Je ne comprends pas vraiment la définition. Leon Sanchez au micro. Quand on parle de membre unique ou responsable de la désignation unique, on ne parle pas simplement d'une personne. On parle d'une entité légale. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un seul SO ou AC qui ont tous les pouvoirs, qui sont concentrés en un groupe, mais ce serait un organe qui inclurait tous les SO, tous les AC, mais vis-à-vis de la loi, il n'y aurait qu'une personne, une entité légale, unique. Je ne sais pas si ça répond à votre question, quand il s'agit de... Donc on parle d'entité dans ce cas-là, exactement. Donc, la prochaine question, les pouvoirs légaux, les pouvoirs statuaires, ce sont ceux qui sont conférés par la loi, il s'agit de la loi, qui confère donc des pouvoirs à une personne. Et ces pouvoirs peuvent être, différents, ça dépend des droits, mais dans le cas d'un membre unique, ces pouvoirs légaux, si je comprends bien, ne peuvent pas être changés, ils doivent être toujours prêts à être utilisés. Et ça, c'est une inquiétude pour le board. C'est une inquiétude pour et beaucoup de gens du conseil et beaucoup de personnes au sein de la LAC. Olivier, voilà, on arrive au bout de notre temps alloué. On m'avait envoyé une chronologie, mais c'est trop détaillé, on ne va pas voir ça maintenant. Nous avons Sean qui doit fermer la... discussion. Sean, au micro. Sean, je comprends que quand le modèle avait été mis en place, il y avait que certains membres, un peu de personnes avaient des pouvoirs, peu de membres avaient des pouvoirs. Ce modèle de responsable d'organisation unique, ça veut dire que les gens qui ne voulaient pas participer avant sont maintenant d'accord pour participer. Est-ce qu'on a toujours ce problème de personnes qui puissent exercer leur pouvoir? Olivier Crépin-Leblanc, oui, Leon Sanchez au micro. Sean, c'était un des défis que nous avions quand on parlait d'adhésion, quand on parlait de responsables de désignation multiples, parce qu'il y avait des AC ou des SO qui ne sont pas en position pour devenir des associations qui ne sont pas incorporées. Disons, c'était donc un défi, comme si quelqu'un allait prendre une décision. Comment est-ce qu'on va mettre ça dans le processus de prise de décision? Aujourd'hui, nous sommes une solution qui inclurait tous les SO ou les SAC dans le processus de prise de décision, mais qui n'aurait pas l'exercice des pouvoirs. Ça, serait sur la responsabilité du responsable de la désignation unique. Le fait que nous ayons l'exercice de nos pouvoirs, cette décision-là serait prise par toutes les SO et pour tous les AC au sein de l'ICANN. Sébastien, vous aviez levé la main? Non, c'était juste... Ok, donc maintenant, il me reste une question à moi. Lorsqu'il s'agit du démantèlement du conseil d'administration ou du démantèlement d'un des membres du board d'administration, est-ce que ça va être fait sous le modèle de responsable de désignation unique? Est-ce que cela aura besoin, on aura besoin d'un consensus complet du SO ou du AC pour se donc démettre un membre? Cela va changer la nature d'un membre du conseil d'administration, parce que si un membre peut être démis, un membre devient presque un politicien. Il va être essayer de faire plaisir à sa communauté. Si un politicien ne peut pas faire plaisir à sa communauté, il peut être démis demain, même s'il a des responsabilités fiduciaires. Donc il y avait des inquiétudes au niveau du conseil d'administration. Est-ce que ce problème est résolu avec le responsable de la désignation unique? Léon, oui, il y a du travail qui est fait en ce moment. Oui, oui, c'est vrai. Je ne vais pas dire que c'est un accord que nous avons atteint au niveau au sein du groupe. Nous n'avons pas atteint un accord. Nous y travaillons, nous avons fait des progrès ce matin. Et ce que ce groupe de travail fait, on en est arrivé, est-ce qu'il y a différents seuils? Et les points clés, c'est que lorsque l'on parle de démettre donc un membre unique, ça veut dire que les SO et les AC pourront initier le processus, mais ils auront besoin de tous les SO, les SO et les AC, le support de tous. Cela éliminera le risque de rendre les membres du conseil d'administration comme des politiques, des hommes politiques, enfin des personnes politiques. C'est du travail que l'on fait pour l'instant. Ce que le groupe a proposé, c'est une solution comme je viens de la désigner. Olivier, Alan Greenberg au micro. Oui, ce que je vois, ce qui est sur la table depuis midi d'ailleurs, pour les SO, les AC, pour les directeurs, par exemple, pour un directeur de AC ou de SO, les AC et les SO qui ont élu cette personne commencent le processus. C'est assez complexe. La décision finale appartient au SO, au AC. Moi, je pensais que c'était comme ça que ça se passait. Non, je pensais que c'était ça que ça disait. Alors, dans tous les cas, que ce soit la chose qui soit sur le projet qui est sur la table, les deux directeurs qui sont les plus opposés à ce que nous proposons ont accepté. Donc, pour l'instant, tout le monde a l'air d'être heureux. Olivier, oui. Alors qu'il y avait 4 délégués sur le groupe de travail responsabilité, le CCWG, 2 disaient non, 2 disaient oui. Donc, c'est bon, continuez à parler, à discuter pendant les jours à venir. J'espère que cette session, cette réunion a aidé tout le monde et ces gens qui sont là et ceux qui sont à distance. Nous aurons plus de réunions à ce sujet sur la transition et sur la responsabilité. Nous vous donnerons plus de mises à jour. C'est un travail qui continue. Tous les gens qui sont dans les groupes de travail ne peuvent pas attendre demain matin ou peut-être même ce soir. Je ne sais pas quand va être votre prochaine réunion face à face, mais ces gens-là veulent continuer à travailler. Donc, de notre part, entre nous, je voudrais vous remercier d'avoir passé toutes ces journées et ces nuits, passé tellement de temps sur ce fil, sur ce travail. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, mais il y a d'autres remerciements. Et peut-être, Alan, vous voulez remercier? Non, je vous laisse faire, dit Alan. Alan, au micro, il y a une réunion lundi matin. C'est une réunion de participation publique. On va parler du CCWG à la communauté d'ICANN en général. Et l'après-midi, il y aura une autre réunion du CCWG. Et peut-être là, on pourra finir la discussion et emballer, mettre un beau ruban sur le paquet. Olivier, merci à tous d'être ici, l'équipe technique et les interprètes. Merci. Alan, je voudrais remercier Ariel pour le nouveau chronomètre. Olivier, cette réunion est terminée. Passez une bonne soirée à tous. À tous.